l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Bonjour, en collaboration avec les archives du Monde qui lui consacre un dossier dans Le Monde 2 d'aujourd'hui, Henri de Montfred.
Malgré mon âge, j'entends toujours la mer gronder autour de moi, comme on écoute au creux d'un coquillage, qui conserve en lui toujours, éternellement, la rumeur de la mer, le souvenir.
D'histoire. J'ai vécu au moins quatre vies, disait Henri de Montfred avant de mourir presque centenaire en 1974. Quatre vies partagées avec plusieurs générations de lecteurs qui, en lisant Montfred, ont traversé avec lui la mer Rouge et l'océan Indien, parcouru l'Éthiopie, la Somalie et le Yémen, et découvert des noms de ports et de lieux qui font rêver. Moka, Obok, les îles d'Alaak, les Seychelles ou le golfe d'Aden. Car ce paisible négociant en cuir et en café, devenu pêcheur de perles, puis trafiquant d'armes et de drogue, et peut-être même espion, avait aussi le don de nous faire partager ce goût de l'aventure qu'il avait un jour fait partir en Afrique. On l'écoute en 1936 présenter le film « L'esclave blanc », l'enregistrement le plus ancien de la voix d'Henri de Montfred.
Vous qui rêvez aventure dans une vie peut-être trop monotone, laissez-vous conduire à travers cette brousse africaine où j'ai traîné ma chance pendant près de 30 ans. Tout ce que vous verrez est vrai. Vous verrez aussi comment deux hommes, là-bas au fond de ces solitudes, deux hommes d'une même race, peuvent arriver à se haïr jusqu'à la mort. Vous irez sur les bords du fleuve Jouba. Vous verrez les femmes somalies allant puiser de l'eau à l'abri des clés de branchages dressés contre l'invisible présence des crocodiles. La terrible danse du couteau, la djembia, arme favorite des Somalis, grande lame à double tranchant, mais assez bavardée. Il est temps maintenant de vous laisser partir à travers cette brousse sauvage de la Somalie. Vous en allez sur les ailes merveilleuses du son et de la lumière.
Guillaume de Montfred, bonjour.
Bonjour.
Alors quand on entend votre grand-père, il y a 70 ans, on a presque envie de prendre sa valise et le rejoindre en Afrique, parce qu'avant d'être l'aventurier, le trafiquant, l'écrivain dont nous allons parler avec vous, c'était d'abord un extraordinaire conteur, il a dû raconter de belles histoires.
Eh oui, ça c'est un conteur, et c'est vrai que rien que d'entendre sa voix, ça met du vent dans les cheveux. Mmh. Et que on a tout de suite envie de partir. C'était un extraordinaire conteur, à tel point que quand il donnait des conférences, les gens avaient l'impression eux-mêmes, alors qu'ils étaient à Paris, à Châteauroux, à Nîmes ou à Béziers ou à Marseille, ils avaient l'impression d'être allés en Somalie.
Puis le goût de l'aventure qu'il découvre sans doute avec son père, c'est-à-dire votre arrière-grand-père, qui lui fait traverser, je crois, la Méditerranée à l'âge de 6 ans.
Et oui, gamin, il est monté sur un bateau. Avant de monter sur un bateau, il a habité au bord de la mer.
Oui, il est né à Leucate, voilà, en 1879, oui.
Au bord de la mer. Donc, il a d'abord connu la mer par ses petites vagues, et ensuite, il l'a connu sur un pont de bateau. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'oublie jamais.
Avec un père peintre, ami de Gauguin, en plus.
Ami de Gauguin, absolument. Donc, dans un univers, finalement, assez libre de pensée, assez libre de ses actions aussi. Son père était rentier, donc il n'y avait pas vraiment de problème d'argent à la maison.
Les origines familiales aussi, qui sont un peu étranges.
Ah oui, tout à fait étranges. Bah, écoutez, j'ai un scoop que je vais dire en deux mots. Grâce à ma fille, on a découvert que grand-père, c'est-à-dire Henri de Montfred et Hergé, le fameux dessinateur de Tintin, le papa de Tintin, seraient probablement cousins germains. Ils auraient tous les deux le même grand-père, Léopold II, le roi des Belges.
Le roi des Belges, donc
voilà. On va faire peut-être un club. Voilà. Mais ça révolutionne le milieu de l'aventure.
En tout cas, les parents d'Henri de Montfred se séparent. Il va vivre avec sa mère qui pense pour lui à une vie beaucoup plus conventionnelle. Il fait des études d'ingénieur, rate le concours d'entrée à l'école centrale, se lance dans une vie finalement assez banale, une vie de couple, un premier enfant en 1905.
Il dira triste comme un champ de betteraves. Ouais.
Et puis alors, il travaille aussi, hein, il a un petit travail pendant 5 ans, enfin il va être assez brillant, dans une entreprise bien connue, Magie, hein, d'où il est chassé en 1910. Alors il croit à ce moment-là que sa vie est ratée, il a 30 ans, alors que sa vie n'a pas en fait vraiment commencé. Pierre-Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde et vous avez dirigé un dossier du Monde 2 consacré à Henri de Monfred, qui sera joué dans les kiosques. Quand Monfred quitte la France en 1911, il a, je crois, 30 ans. Quand il la quitte pour aller en Afrique, on a plus le sentiment que c'est pour fuir une vie et un monde qu'il n'aime pas que pour en découvrir un nouveau.
Oui, totalement. Henri de Monfred, en fait, est foncièrement épris de liberté. Et en France, il étouffe. Et c'est cette sensation d'étouffement qui lui a probablement un peu fait rater tout ce qu'il avait entrepris jusque-là. Ses études, sa vie professionnelle, sa vie familiale. Et donc, pour échapper à cette espèce de d'échec permanent qui lui colle aux chaussures, comme ultime recours, en fait, il éprouve le besoin de partir pour justement retrouver cette liberté qui lui fait défaut. Et donc, cette liberté, ce besoin de liberté, c'est ce besoin de liberté qui va lui faire connaître toutes les aventures dont il se fera le conteur par la suite.
Mais au début, il part pas du tout en touriste, hein, il y va pour faire du négoce de café et de cuir. On pense tout de suite à Rimbaud, d'ailleurs.
Totalement. On pense à Rimbaud et effectivement, on peut dresser un parallèle entre les deux, à la différence que Rimbaud avait déjà tout un passé derrière lui, alors que Monfred avait tout approuvé en arrivant à Djibouti.
Où il n'aime pas du tout d'ailleurs les Européens qu'il rencontre, en beaucoup moins en tout cas que la population indigène de Djibouti. On l'écoute au micro de Paul Guimard en 1956.
Arrivé là-bas, j'ai été un peu choqué de l'attitude des Européens vis-à-vis de l'indigène qu'ils considéraient avec le plus profond mépris. Alors que spontanément, j'avais une sympathie pour ces gens-là, peut-être à cause du mystère qui plane sur eux. Ce sont des Arabes du Yémen, des Somalis, des Dangalis. Ils vivaient là comme des oiseaux de mer sur leur nid, ne débarquant jamais. Ces petits voiliers que je voyais mouillés sur la rade. On savait qu'ils achetaient des armes pour porter dans des pays où les Européens ne pouvaient pas pénétrer. Et c'est précisément parce qu'ils ne pouvaient pas y pénétrer que je me suis mis en tête d'y aller. Mais pour y aller, il fallait être accepté. Je me suis fait musulman et je suis parti avec un petit équipage de 3 hommes dans la mer Rouge. Pour vendre une douzaine de fusils.
Et c'était le début d'une aventure étonnante, hein, le négociant en café qui devient trafiquant d'armes et musulman. Il prend, le nom de Abdelhaï, qui veut dire l'esclave du vivant. Est-ce que c'était par conviction religieuse ou par opportunisme, Guillaume de Monfred, que votre grand-père est devenu musulman?
Je pense que c'est plus par opportunisme et pour s'ouvrir, si vous voulez, toutes les portes de ces pays, et notamment celle du Yémen, où effectivement un non-musulman n'avait pas droit de citer. Et puis c'était aussi une manière d'exister pour ces matelots, puisque du jour où il était devenu musulman, il pouvait parler en égal. Et il le disait d'ailleurs lui-même une fois, en tant qu'Européen musulman, il avait en plus un aura supérieur, et qui lui permettait de négocier avec les acheteurs.
Parce que c'est vraiment une métamorphose, hein. Il abandonne le casque colonial, je sais même pas s'il l'a jamais porté, il abandonne ses chaussures, il se transforme complètement, Pierre-Julien.
Il se fond complètement dans la couleur locale, il apprend les langues qui lui sont nécessaires pour son commerce, il prend femme sur place, ce qui n'empêche pas d'avoir une femme en métropole, il s'habille, il vit au rythme vraiment des gens avec lesquels il partage son quotidien.
Alors, ce commerce, hein, c'est d'abord, on l'a entendu d'ailleurs à l'instant, c'est d'abord les armes, hein. Exactement. Trafiquant d'armes, ça il s'en cache pas. À qui est-ce qu'il les vend?
Les fusils donc et des cartouches, il commence par vendre ces armes aux populations africaines qui sont sous la juridiction française.
Oui, alors que c'est pas permis d'ailleurs. C'est voilà. Un peu ça tout le problème d'ailleurs. Parce que normalement, d'ailleurs, il s'en étonne quelquefois, les bateaux devaient partir normalement au-delà de Moukalla, même jusqu'à Oman. Et c'est très loin, il y a le régime de la mousson qui commande, et normalement on ne peut faire qu'un voyage tous les 6 mois. Et là, comme par hasard, les bateaux mettent 8 jours. Rien au bout de 8 jours, donc c'est qu'ils sont allés ailleurs.
Il le fait sur son bateau, hein. C'est aussi un navigateur.
Oui, alors c'est ça qui est très étonnant, c'est que voilà quelqu'un qui contourne les interdits douaniers, de taxes et autres, mais qui se mouille lui-même, c'est-à-dire qu'il travaille pas par personne interposée, il monte pas une société écran, il n'y a pas des gens de paille qui viennent. C'est lui-même qui charge les armes, c'est lui-même qui les prend en charge sur son bateau, c'est lui-même qui va les vendre, c'est lui-même qui les débarque. Donc il a vraiment besoin d'action et d'embrun, si j'ose dire.
Et des pêcheurs de perles aussi.
Mais bien sûr, pêcheurs de perles. incroyable. Et oui, parce que ça fait rêver. Les perles, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La nacre.
Mais il en ouvre des quantités pour en, je sais pas combien.
Oui, il en ouvre. Oui, il y en a très, très
peu. C'est pas des perles de culture, hein.
Non, il s'y essaye d'ailleurs avec, hélas, pas du tout de succès.
Non, ça, je crois que ça lui a pratiquement jamais rien rapporté.
Non, non, c'est le bide complet. On peut appeler ça comme ça.
Alors, il y a quelque chose dont il se cache pas non plus. D'ailleurs, je sais même pas si c'est interdit. Il est trafiquant de drogue, Pierre Julien.
Oui, alors, de drogue, on peut préciser, effectivement, il fait de la contrebande de hashish et de cannabis.
Oui, ce qu'on lui reproche, c'est la contrebande, parce que je crois que la consommation ou la vente de hashish n'est pas interdite.
Effectivement, à l'époque, hein, suivant le territoire. Mais effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est effectivement d'échapper au paiement des taxes. Et donc, il commence par des petites cargaisons locales, un trafic local entre la Grèce, Djibouti et l'Égypte. Et il va voir les choses en grand quand il se rendra compte que finalement la tâche n'est pas insurmontable. Et ce qui conduira à se rendre en Inde pour se fournir là en plusieurs tonnes de marchandises.
Mais pas pour sa consommation personnelle. Je crois que c'était jusqu'à 12 tonnes, il y a un transport de 12 tonnes de drogue.
Oui, oui. 6 légales, justement, ouais. Qui avaient tous les papiers, et 6 qu'il avait récupéré d'un capitaine véreux qui avait essayé de lui voler sa marchandise.
Qui ont fait sa fortune, d'ailleurs. Je crois que c'est essentiellement.
Oui, oui. Et il a fait d'ailleurs très attention à ne pas déstabiliser le marché en l'écoulant pendant plusieurs années.
Alors, parmi les trafics dont on l'a soupçonné, ou qui étaient réels ou supposés, il y en a un, c'était le trafic d'esclaves. Alors, il en avait, je crois, d'ailleurs, à son service. Et il ne condamnait pas nécessairement l'esclavage. On l'écoute en parler au micro de la RTF en 1956, toujours au micro de Paul Guimard.
On a fait beaucoup de bruit sur l'esclavage éthiopien. Là-bas, ça n'a rien de commun avec l'esclavage tel que le décrit la case de l'oncle Tom. Je veux dire, les esclaves de travail qui ont été apportés après la découverte de l'Amérique, là, c'était une chose odieuse. L'esclave d'Éthiopie et de tout l'Orient, c'est l'esclavage patriarcal tel qu'il se pratiquait dans l'Antiquité. Un esclavage même qui a un certain charme. Je ne dirais pas si nous étions, nous, esclaves, que nous y trouverions un charme, car notre mentalité n'est pas celle-là. Mais ceux qui sont dans cette condition n'en changeraient pas et n'en veulent pas changer. Ils n'ont aucune responsabilité, ils sont considérés comme des enfants. Un maître d'esclaves n'a pas le droit de les vendre. C'est un cheptel qu'il a chez lui, tout ce qui est né dans sa maison devient d'esclaves, il n'a pas le droit de les vendre. L'esclave fait partie de la famille.
On comprend que ça puisse quand même choquer, Guillaume de Montfred, ce que l'on vient d'entendre, votre grand-père parlant de l'esclavage, disant qu'il pouvait avoir du charme et tout.
Oui, enfin, vous avez compris le terme de charme aussi qu'il explique correctement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il adhère à cette notion-là. Ça veut dire tout simplement qu'il montre le fossé qui existe entre la culture africaine qui fait cet esclavage et la nôtre qu'il a abolie, finalement, il n'y a pas si longtemps. Hein? Donc c'est ça qu'il veut dire, et il veut dire qu'il faut faire attention en éteignant cet esclavage à ne pas bouleverser après l'autre l'équilibre instable de cette société, et c'est ça qui est très fragile. Et alors il ne le défend pas. Il n'a jamais fait, évidemment.
Oui, il le justifie, en tout cas. C'est ça
voilà,
qui est,
c'est il le justifie d'une certaine manière.
C'est peut-être les années 30, on peut le comprendre, mais quand même.
Mais il le justifie dans la logique éthiopienne.
Et est-ce qu'il en faisait le trafic?
Mais non, alors c'est impossible, c'est grotesque d'imaginer ça et de le penser, parce que quand on lit ses lettres et qu'on voit son activité, il n'a pas pu avoir une seconde pour le faire. Et en plus, trafic d'esclaves, ça veut dire savoir à qui on les achète, comment on les transporte et à qui on les vend.
Autant effectivement, autant le trafic de la contrebande de drogue ou de marchandises illicites pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. Je crois aussi que le vrai trafic d'esclaves aurait été très risqué pour un blanc, même teinté de sa nouvelle religion, et il serait retrouvé vite, je crois, avec un couteau derrière les épaules, entre les épaules.
Il était interdit depuis le début du XIXe siècle.
Oui. Donc, et c'est vrai que ses écrits ne répercutent absolument pas une telle activité. Alors qu'il était au courant, bien sûr, mais qu'il soit intervenu directement, a priori, probablement pas.
En tout cas, il en parle beaucoup dans ses livres. Mais avant de parler de l'écrivain, je voudrais vous faire entendre un Montfred peu connu et qui savait aussi pousser la chansonnette.
Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il partit en croisière pour aller chasser l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Il partit de l'Orient par belle mer et bon vent. Il voguait tribord Tamur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur sa mâture et v'là le corsaire en poteau. Nos prises au bout de 6 mois ont pu se monter à 3. Un navire de savate, plus que moitié chaviré, un deuxième de patate et le troisième de fumier.
Et ce n'est pas un poisson d'avril, mais Monfred chantant Le Corsaire en 1965. Monfred chanteur, hein, ça vous le saviez sûrement, Guillaume de Monfred.
Oui.
Mais aussi, ça aussi c'est peu connu, on parlera de l'écrivain dans 2 secondes, mais également peintre et photographe. Dans les archives du Monde 2, d'ailleurs, Pierre-Julien, vous montrez quelques-unes des photos de Henri de Monfred.
Effectivement, il y a une grosse production de photos, et d'ailleurs, Monfred régulièrement demander à son père de lui faire parvenir du matériel, des plaques, pour pouvoir continuer à prendre des photos tout au long de ses expéditions. Il y a à peu près 1 millier de plaques qui retracent une 20aine d'années d'activité, des premières années de Henri de Monfred, aventurier.
Photographe et peintre, Guillaume de Monfred.
Et peintre, oui.
C'est même sa première vocation.
C'est presque à se demander, oui, effectivement. C'est vrai que sa manière de s'exprimer de façon artistique, c'est-à-dire que, en réalité, il a eu des dons artistiques, des dons incontestables, vraiment un vrai talent, dans 3 domaines. Parce que quand on lit ses lettres, il y a vraiment un don d'écriture. Quand on le voit prendre des photos, il y a vraiment un don de photographe. Et quand on le voit faire quelques aquarelles, il y a quand même un don de peintre. Alors, tout ça est en gestation. Mais c'est vrai qu'il mène de front ces 3 activités artistiques. Et c'est assez étonnant pour un homme qui fait de la contrebande.
En tout cas, la vocation la plus importante, celle qui va le faire connaître, et sans laquelle, d'ailleurs, on ne le connaîtrait peut-être pas, peut-être qu'il aurait pu continuer comme ça ses jours en mer Rouge, sans que personne ne sache qui était Monfred, c'est la littérature. C'est précisément, d'ailleurs, pour que ses aventures lui survivent, qu'il a commencé à les écrire. On écoute Monfred en 1955.
Peu à peu, je me suis dit, où iront tous ces beaux souvenirs? Où iront tous ces enthousiasmes? Que deviendra cela quand je n'existerai plus? Alors, j'ai donné un sens à ma vie. J'ai voulu me survivre en l'esprit de tous ceux qui partageront les émotions de ma vie et tout ce qui en fit la beauté. J'ai pris des notes, je n'avais nullement la prétention de faire un écrivain. Je voulais seulement que mes enfants puissent un jour savoir ce que fit leur père. Et j'ai la satisfaction profonde de me dire que dans tous les coins du monde, partout où se parle le français, des hommes liés à une vie monotone pourront avoir un instant d'évasion. Et voilà pourquoi, malgré mon âge, il me semble toujours vivre dans ce milieu que j'ai tant aimé, et j'entends toujours la mer gronder autour de moi, comme on écoute au creux d'un coquillage qui conserve en lui toujours, éternellement, la rumeur de la mer, le souvenir.
C'était Henri de Monfred expliquant pourquoi, en 1955, pourquoi il s'était mis à écrire, ce qu'il n'a commencé à faire qu'en 1931, c'est-à-dire à l'âge de 52 ans. Pourquoi a-t-il attendu autant de temps, Pierre-Julien?
En fait, il écrivait depuis bien plus longtemps, puisque ses premières lettres datent à son père, datent de 1911, et il a abreuvé sa femme et son père d'un courrier de journaux de bord très 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 bien écrit, déjà très très abouti, qui ont donné matière à ses livres futurs. Et donc, ce talent d'écriture est indéniablement raciné dans la personnalité de Monfred. Et dans les explications que donnent certains de ses biographes, savoir la qualité de cette écriture, il avait besoin de subsides que son père au début lui faisait parvenir. Il fallait donc tenir en haleine son père, le tenir informé de ce qu'il faisait aussi de ses subsides. Et ce courrier, ces journaux, ces lettres étaient là pour justifier un petit peu de l'utilisation de ces fonds du fils à son père. Et donc naturellement, quand les proches de Monfred qui prenait connaissance de ses écrits, envoyait toute la qualité, ses proches ont incité Henri de Monfred à l'exploiter. Et Henri de Monfred, évidemment, a vu là probablement peut-être un signe qui lui permettait de passer à la postérité et de réussite.
On dit aussi, Guillaume de Monfred, qu'il y a une rencontre qui est très importante, et quelqu'un qui a vu justement à quel point il avait du talent, Kessel.
C'est Kessel, oui. Et justement, d'ailleurs, c'est à l'époque où Kessel faisait une enquête sur le trafic d'esclaves en allant à Tadjoura, où Henri a été son guide pendant 3 ou 4 mois. Et Henri, enfin c'est ce qu'on raconte, mais je ne vois pas pourquoi ce serait faux, Henri lui aurait donné ses journaux de bord à Kessel en lui disant « Tiens, prends ça, tu auras matière à ton ouvrage ». Et Kessel a répondu « Certainement pas, ça c'est à toi de l'écrire, c'est à toi de le faire ». Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est mis à l'étrier. Et ce qu'on sait moins, c'est que sa femme, Armgard, elle par contre, pourtant allemande, a corrigé sa syntaxe, a corrigé son français, lui a donné une certaine exigence. C'est-à-dire, quand on lit ses lettres, on voit une certaine faconde, une certaine facilité, mais finalement, il y a assez peu d'exigence derrière tout ça. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rature, il n'y a rien. Ça sort directement, alors que elle l'a obligé à entrer dans le travail d'écrivain. Donc, s'il est devenu un écrivain, c'est par Kessel, je dirais, qui lui a donné la clé, mais sa femme derrière a, comment dirais-je, magnifié son talent.
Et puis écrivain avec un succès immédiat, le premier livre, dès le premier livre, Les Secrets de la Mer Rouge, c'est-à-dire peut-être le plus connu de tous. Oui. On dit qu'il manquait d'imagination, en fait, parce que c'est sa vie qu'il raconte dans les romans.
Mais il le dit lui-même qu'il manquait d'imagination. Oui. C'est ça qui est assez étonnant. Oui.
Alors il va continuer à écrire toute sa vie, hein, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il passe en France. Il retourne en France en 1947, oui. Et il va s'installer au fin fond du Berry, à Ingrande.
Voilà, dans un endroit où il avait demandé à ce qu'on ne le dérange pas et à ce qu'il ne soit dérangé par personne. Et puis, comme par hasard, un étang qui était juste à côté, à quelques kilomètres, s'appelle, sans rire, l'étang de la Mer Rouge. Ouais.
Mais ça n'a rien à voir avec Monfred.
Rien, rien. Il s'est appelé comme ça à cause de l'époque des croisades.
Ouais. Alors, justement, il y a tout un article dans Le Monde 2, dans les archives du Monde 2, Pierre Julien, où on est évoqué cette période d'Ingrande, hein, son exil en quelque sorte, ou en tout cas c'est la fin de ses jours dans ce village. Et alors, où vraiment, il est venu avec toutes les habitudes qu'il avait pu prendre en Afrique, et notamment, il y en a une qui m'a fait beaucoup rire. En 1951, la police arrive pour l'accuser, tout simplement, de consommation de hashish.
Et oui, suite à, on va dire, un drame...
À 71 ans,
exactement,
c'est ça qui est
amusant. Oui, oui, oui. En fait, suite à un drame domestique, une lettre anonyme a été envoyée aux autorités, accusant Henri de Monfred de s'adonner à la drogue. Et donc, ce qui était vrai, et les suites judiciaires ont prouvé effectivement, de Monfred ne s'en cachait pas, qu'il continuait à garder ses habitudes concernant l'opium, contrebalancé par une forte consommation de miel, ce qui lui a permis... Pour dire les choses rapidement, de vivre jusqu'à 95 ans.
Oui, c'est pas un encouragement à la consommation.
Du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que je parlais du miel.
Dans ce qui est extraordinaire aussi, c'est que il ne lève jamais le pied, il continue de bourlinguer. En 1953, il a 80 ans, il disparaît pendant 10 jours dans l'océan Indien, en 58.
Oui, oui. Ben oui, parce que il était allé faire une tournée, nous habitions à l'île de la Réunion. Mon père était architecte de la Réunion, et il devait faire une tournée de conférence. Et puis, tout d'un coup, ils se sont dit, mais pourquoi n'en ferions-nous pas une à l'île Maurice à côté? Alors oui, pourquoi pas, et on y va en bateau. Et l'histoire est partie comme ça, sur un mauvais petit bateau, croisière mal organisée, et résultat, ils se sont perdus pendant 15 jours.
Nous avons retrouvé Henri de Monfred et ses trois compagnons qui viennent de vivre des heures tragiques pendant 10 jours en plein océan. Cher monsieur de Monfred, quelques mots sur ce voyage qui faillit se terminer tragiquement.
Vous n'avez jamais désespéré de la situation, vous étiez persuadé de retrouver la côte de Madagascar.
Maintenant que me voilà arrivé, je ne désespère plus. Mais je vous avoue qu'à certains moments, je me suis demandé où nous allions, lorsque j'avais peur que les pauvres gars qui étaient avec moi me changent. D'abord, ils n'étaient pas marins, et ensuite, il fallait les soutenir. Et nous avions des nourritures plus qu'illimitées. Mais c'est un brave gendarme qui nous a aperçus et qui a immédiatement alerté la base de... Le Québec, que 3 heures après... Un avion nous survolait.
Et c'était Henri de Monfred, retrouvé en 1958, il a 80 ans. Ça va être un grand-père absolument étonnant, Guillaume de Monfred. Vous l'avez bien connu, vous?
Ben oui, je l'ai bien connu. Nous étions voisins à Paris, on se voyait régulièrement. On avait évidemment des relations de grand-père à petit-fils, mais bon, je suis pas le seul petit-fils, loin de là. Et beaucoup d'autres de ses petits-fils l'ont bien connu aussi. Mais c'est vrai que moi, le souvenir que j'en ai, je dirais, c'est peut-être une chose un petit peu particulière, parce qu'il m'a initié à la peinture, on a fait de la moto ensemble, on a parlé d'un certain nombre de choses, si vous voulez. On n'a pas tellement abordé son aventure, puisqu'il me disait, t'as qu'à lire mes livres. Mais par contre, on a vécu des choses personnelles ensemble.
Et il vous a pas fait partir en mer rouge, vous ?
Non, mais j'ai quand même fait une croisière assez grande avec lui sur le bateau de mon père. On a fait le tour de la France. À l'époque, je comptais pas, hein, j'étais même pas un mousse. Mais ce sont des choses qu'on n'oublie pas.
Et surtout, tous ces livres. Par lequel on commencerait, s'il fallait commencer par un livre de votre grand-père ?
Eh bien, écoutez, je pense que pour tout de suite plonger dedans, le mieux, c'est Les Secrets de la Mer Rouge.
Merci Pierre-Julien et Guillaume de Monfred. Avant quelques conseils de lecture, on se quitte sur ce bel hommage de Gérard Manset à Henri de Monfred, La Mer Rouge.
Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Alfred, où tu pêchais les perles de nacre, on trouve des vieux clubs, des pneus d'un lac, il y en a qui font la mer rouge en star. quand les volcans plus graves font des bas, plus d'esclaves, où tu pêchais des perles roses. Le soir au matin, y a les têtes qui se posent au milieu des massives fleurs qu'on arrose.
J'ai romancé La Mer Rouge, belle chanson pour conclure cette émission sur Henri de Monfred, Henri de Monfred auquel Le Monde 2, qui sort aujourd'hui en kiosque, a consacré cette semaine son dossier Les Archives du Monde, un dossier dirigé par Pierre Julien. Je rappelle également que Guillaume de Monfred, qui était mon invité, est l'auteur, avec la photographe Anne-Laure Lafay, de Peintre dans la ville, Tirana, galerie publiée aux éditions Michelon, ainsi que d'un livre sur votre grand-père, qui va paraître bientôt, je crois, Guillaume de Monfred, En Mer Rouge, Henri de Monfred, photographe et aventurier, qui doit sortir aux éditions Gallimard fin avril. À lire également Sur les traces d'Henri de Monfred, de Freddy Tondeur, publié aux éditions Anaco. Vous avez pu entendre des extraits du film L'Esclave Blanc, un extrait d'ailleurs, de Jean-Paul Paulin, un film présenté par Henri de Monfred, disponible en VHS aux éditions Les Documents Cinématographiques, et qui va bientôt sortir en DVD dans la même édition. Toutes ces références, et elles sont nombreuses, sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric Joseph Julien et Amélie Briand, ainsi qu'à Anne Comilac pour la réalisation.
Moi-même, le jour j'ai vu, tout vérifié, j'ai tout vu, j'ai tout lu, parcouru l'étendue, j'ai rien reconnu. Pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon frère, tu pêchais des perles de nappe.
Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, un sujet d'actualité, une histoire des sondages. Mardi, un écrivain français pendant l'occupation, Louis-Ferdinand Céline. Mercredi, un célèbre général américain tué par les Indiens à Little Bighorn en 1876, le général Custer. Jeudi, la naissance de l'islam. Et enfin, vendredi, une histoire du pacifisme. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
À lundi, Patrice Jalinet, merci.